Bienvenue à Olivier Durier, donc praticien de massage chinois, le Tuina. Bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue sur notre antenne. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de ce massage qui est un véritable soin. On va voir ensemble en quoi ça consiste, ce que ça peut apporter et ce que ça peut soigner éventuellement comme maladie ou pour du mieux-être.
Tout à fait.
Expliquez-moi d'abord comment vous en êtes venu à étudier cette pratique.
J'ai découvert le massage chinois lors d'un voyage en Chine. J'ai trouvé l'efficacité du massage redoutable et ça m'a intéressé de me former dans cette pratique. J'étais déjà assez intéressé par tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche aux soins. Du coup, je suis retourné en Chine pour un voyage plus long. J'ai passé plusieurs mois là-bas dans un hôpital pour me former vraiment de manière pratique à la chinoise au massage. Et puis après, bon, bah, c'est une formation qui est sans fin. Hein, donc voilà, après, on continue à se former en France, les techniques du massage. Et comme c'est le massage qui s'intègre dans la médecine chinoise, c'est une des cinq branches de la médecine chinoise. Donc il y a l'acupuncture, il y a la pharmacopée. Il y a le massage chinois, il y a la diététique, il y a les exercices de santé. On connaît ici le Qigong, par exemple. Et du coup, c'est vrai que quand on rentre par une porte, on a accès à toute la variété du système dans lequel on s'intègre.
Donc, vous avez étudié ça aussi, l'acupuncture
Je me forme en acupuncture aussi. Et bon, je pratique aussi le Qigong et certains exercices de santé chinois. Et autres d'ailleurs, parce que c'est assez proche dans certains domaines, ça peut être assez proche du yoga ou d'autres activités corporelles orientées vers la conscience du corps, vers l'aspect santé, entre autres.
Et la pharmacopée aussi, ça fait partie de... c'est un tout?
Oui, c'est un tout. Alors moi, la pharmacopée, j'utilise pas du tout. J'ai plus des notions, on va dire, de diététique chinoise, même si ça reste un petit peu compliqué, l'aspect diététique. Dans le sens où déjà il peut y avoir des produits chinois qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Et puis c'est vrai que le rapport à l'alimentation, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc autant essayer de donner des orientations par rapport à ça, c'est important. Mais bon, la diététique chinoise, ça fait partie des choses que j'étudie, mais ce n'est pas mon outil privilégié. Moi,
j'aime beaucoup la technique manuelle.
J'aime beaucoup l'aspect manuel, oui. Oui. On a d'autres variétés de techniques qui sont extraites de l'acupuncture sans être forcément acupuncturales dans le sens utilisation d'aiguilles. Je pense par exemple à la moxibustion ou aux ventouses ou au gua sha, qui est une technique avec un petit grattoir qu'on frotte sur les méridiens d'acupuncture ou sur des zones corporelles particulières. Donc on a quand même une bonne variété de techniques qui permettent d'officier efficacement.
Je peux dire que j'ai découvert donc cette pratique. C'est quand même un massage très tonique qui s'adapte à tous les âges, à toutes les morphologies.
Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un massage qui est assez tonique et encore, moi, je pense que je l'ai adapté par rapport à ce que j'ai pu pratiquer, voir et faire en Chine. Mais oui, dans tous les cas, ça s'adapte forcément à tous les individus puisque ça commence toujours par un petit bilan, en fait, avec la personne, enfin, par un petit bilan qui peut prendre un certain temps. Hein. On prend le temps. Moi, j'aime bien prendre le temps. Et donc, on voit un peu en fonction des problèmes de la personne, de sa sensibilité, de sa constitution aussi. Et on adapte évidemment le soin en fonction de la personne. Je peux masser des adolescents ou des personnes âgées. Ça va être forcément adapté à la constitution de chacun.
Alors, tout est une question d'énergie. Est-ce que c'est vraiment ça la base de ces soins, c'est de vérifier les blocages énergétiques?
Oui, exactement. Cet aspect énergétique, on peut le prendre dans un sens assez pragmatique au final. Hein. On considère que toute douleur ou tout problème va être lié à un blocage ou une stagnation, on va pouvoir dire, de l'énergie dans le corps. Et le but du bilan, ça va être déjà de déterminer où peut se trouver le blocage. Et après, avec le soin, on va essayer de lever ces blocages et de rétablir la circulation correcte de l'énergie si elle est bloquée.
Alors, vous utilisez plusieurs techniques. Vous avez parlé de donc le massage manuel, les ventouses et la moxibustion.
Oui.
Et le grattage.
Le gua sha.
Le gua sha.
Le gua sha.
Comment vous voyez, on va voir ce que c'est le principe de chacune de ces méthodes. On va commencer peut-être par la ventouse.
Oui.
Comment ça se passe? C'est quelque chose d'assez vieux comme soin.
Oui, oui, c'est un bel outil, la ventouse. C'est assez vieux et c'est pas uniquement chinois. Hein. C'était utilisé pas mal dans les campagnes en Europe,
oui.
Notamment lors des états grippaux, où les anciens plaçaient les ventouses sur le dos, sur la zone thoracique. Et donc en Chine, on retrouve cette utilisation-là par rapport aux états grippaux. Et en plus, c'est lié au système des méridiens. Donc on peut appliquer les ventouses sur certains points. On peut mettre en place des petites techniques particulières de manipulation des ventouses sur les méridiens d'acupuncture et sur les points d'acupuncture. En fonction des effets qu'on veut produire et aussi en fonction de la constitution de la personne, parce que c'est une pratique qui mobilise beaucoup d'énergie. On peut doser l'aspiration et donc en fonction de la constitution de la personne, si on a une personne qui est très fatiguée ou un peu fragile, on va pas mettre la même aspiration que si on a une personne qui est plutôt en plénitude, on va dire, qui est plutôt costaud. Donc
comment vous dosez l'aspiration?
Ben en fait, l'aspiration, elle est faite à partir d'une flamme qu'on passe dans la ventouse et qu'on enlève tout de suite avant de poser la ventouse sur la personne. Et donc plus la flamme reste longtemps et plus on pose vite la ventouse sur le corps de la personne, plus l'aspiration est forte. Donc si on veut une légère aspiration, on va passer la flamme peu de temps et on va poser tranquillement la ventouse, ça va faire une petite aspiration. Et si au contraire on veut une aspiration plus forte, on va laisser la flamme longtemps. Il y a pas mal de techniques de mobilisation différentes. On peut appliquer une quantité d'huile assez importante et faire circuler la ventouse sur le corps de la personne. Et ça équivaudrait un peu à un palpé roulé qu'on connaît en massage, qui est assez efficace et qui est très relaxant pour tout ce qui est douleur musculaire. Oui, beaucoup pour les douleurs musculaires, douleurs articulaires, c'est assez intéressant.
Alors il y a la moxibustion aussi, alors, ça en fume beaucoup, et ça sent, enfin, moi j'aime bien l'odeur, mais ça sent très fort, qu'est-ce que c'est?
Alors la moxibustion, c'est une belle pratique aussi, c'est basé sur la combustion d'une plante, de l'armoise. Et donc il y a plein de techniques différentes de moxibustion. On connaît assez fréquemment la moxibustion à partir d'un petit bâton de moxa. Donc l'armoise est roulée dans un espèce de tube et on allume cette plante et on la rapproche des zones du corps qu'on a besoin de traiter. Donc ça peut être tout simplement un aspect musculaire, parce que l'effet chaleur va amener une détente qui va être propice au relâchement musculaire. Et on l'utilise aussi, dans ce cas c'est assez proche des techniques d'acupuncture, on l'utilise aussi sur des points d'acupuncture pour stimuler, par exemple, pour relancer la circulation dans certains méridiens, ou pour au travers des points d'acupuncture pouvoir aller stimuler à distance un système d'organes qui serait lié à ce point d'acupuncture.
Donc. Et vous l'assemblez de temps en temps avec du gingembre, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, on peut l'utiliser aussi de manière indirecte. Donc là, on peut mettre par exemple une petite rondelle de gingembre sur une zone du corps et placer directement sur la rondelle de gingembre des petits cônes de cette armoise, de manière à associer l'effet de l'armoise à l'effet du gingembre, qui est une plante réchauffante. Mais on peut faire aussi, il peut exister des techniques aussi avec de l'ail, par exemple.
Ah oui.
Moi, j'utilise moins, mais c'est vrai que c'est utilisable de cette manière-là aussi.
Alors, on passe à l'autre technique.
Le gua sha, qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors, le gua sha, c'est un petit grattoir, en fait, qui, qui est frotté sur les méridiens. C'est utilisé beaucoup pour faire sortir ce que les Chinois ils considèrent que les troubles peuvent venir parfois de la pénétration de pervers externes. Donc il peut y avoir du froid, de la chaleur, de l'humidité. Et donc le gua sha peut être utilisé en frottant les méridiens d'acupuncture ou les zones du corps de manière à faire sortir cette par exemple la chaleur qui va être emprisonnée à l'intérieur du cœur et qui va à l'intérieur du corps et qui va pouvoir poser des problèmes. Le gua sha va aider à faire sortir. D'ailleurs, on voit ça fait rougir les zones du corps qui sont frottées, sans pour autant être douloureux. La personne ne sent pas généralement, et des fois ça fait sortir par exemple la chaleur. C'est assez efficace pour faire sortir la chaleur.
Alors, on a fait le tour.
Des plus, pratiques utilisées,
voilà.
Oui,
et bon, vous faites aussi un peu d'acupuncture en fonction des besoins.
Oui, en fonction des besoins, ça peut arriver. Et après, il y a tout l'aspect aussi qui est lié au massage, mais tout l'aspect mobilisation et des articulations, parce que les Chinois accordent beaucoup d'importance à tout ce qui est mobilité des articulations.
C'est souvent là que l'énergie se bloque.
Voilà, c'est souvent là que l'énergie se bloque, il peut y avoir des nœuds. Et donc on peut faire des séances vraiment axées sur la mobilisation des articulations. On prend toutes les articulations du corps et on les remet en mobilité. Et c'est vrai que ça produit des effets aussi très relaxants et assez efficaces sur la personne.
Et vous prenez le pouls aussi, ça fait partie du bilan.
Oui, ça fait partie du bilan.
Comment ça se passe, ça ?
Alors le pouls, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas directement lié au tuna, ça serait plus proche au niveau de l'acupuncture, parce que ça va donner des informations sur les organes internes en fonction de la zone où on prend le pouls et de la profondeur. Ça va donner des informations sur les différents organes qui pourraient être en déséquilibre. Et après, les bases qu'on peut prendre du pouls, déjà, ça serait de voir un petit peu sa force, de voir s'il paraît tendu. Il y a des dizaines de pouls catégorisés de manière différente. Alors ils sont parfois compliqués à ressentir de manière précise. Donc ça, c'est un travail énorme, parce que les Chinois considèrent qu'il faudrait prendre plus de 1000 pouls pour commencer à pouvoir être efficace. Mais il y a des médecins qui n'utilisent que ça comme système de diagnostic, qui vont prendre le pouls pendant un quart d'heure, 20 minutes, et qui vont en déduire un traitement à partir de ça. Moi, pour l'instant, j'utilise plus pour me donner des informations complémentaires par rapport à ce que j'ai vu du bilan, à ce dont on a parlé avec la personne. Et puis à ce que je perçois dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon de parler, c'est plus pour avoir une confirmation d'un état ou d'une idée qui m'est venue dans ce bilan.
Donc on peut venir vous voir en prévention ou en soins en fonction de ce qu'on a. Quels sont les maladies ou les symptômes que vous traitez le plus souvent?
Alors moi je m'occupe des gens, je prends soin des gens avant de
dans leur globalité.
Donc après c'est vrai que une des particularités de la médecine chinoise, mais aussi de la plupart des médecines traditionnelles, c'est d'accorder beaucoup d'importance à tout ce qui est préventif. Donc c'est vrai qu'il y a il y a un gros accent qui est mis là-dessus, hein. Ils disent là-bas, un bon médecin n'a pas de patient malade. Donc c'est peut-être un petit peu caricatural, parce que ça nécessite aussi que dans notre mode de vie on fasse tout ce qu'il faut pour pas se mettre malade. Donc il s'agit pas seulement d'aller voir quelqu'un
un gourou pour enlever tous les tracas si on modifie pas son mode de vie.
Tout à fait. Et donc il y a l'aspect préventif et l'aspect mieux-être aussi, auquel il faut vraiment accorder l'importance, parce que ça fait partie du confort de vie, et ça c'est aussi ce qui contribue à rester en bonne santé. Après, on peut traiter pas mal de problèmes en commençant par les problèmes corporels qui vont avoir on va avoir des bons résultats sur toutes ces douleurs. Il y a pas mal de personnes qui viennent aussi pour tout ce qui est problème de sommeil ou problème digestif aussi. Après, beaucoup de personnes viennent aussi sans forcément un gros problème, mais des sensations de fatigue, problèmes de stress.
La dépression, j'imagine.
Voilà,
aussi.
Tout ce qui touche autour du psychisme aussi, parce que c'est vrai que la médecine chinoise va pas séparer le corporel du psychique, donc on est toujours en train de jongler un peu entre les deux, et des fois on a des personnes qui viennent pour un problème physique. Par exemple, récemment, une personne qui vient pour un problème d'épaule. Et en fait, l'épaule peut être liée au méridien du poumon. Et le méridien du poumon, on se rend compte en discutant un petit peu pendant le soin, parce que c'est pas ressorti dans le bilan, que c'est une personne qui a eu un événement très triste dans sa vie peu de temps avant. Et en fait, le méridien du poumon, on se rend compte qu'il est complètement congestionné. Il y a plein de troubles physiques sur ce méridien. Mais en fait, le poumon est lié à la tristesse en médecine chinoise. Et donc, quand au moment où je dis à la personne, vous savez, le méridien du poumon, il a des troubles. C'est vrai qu'on associe à la tristesse. Ça lui parle parce qu'elle sait qu'elle n'en a pas forcément parlé, mais elle a vécu ça un peu de temps avant. Donc après, c'est pas toujours... Là, ça part un peu flagrant. Des fois, c'est beaucoup moins évident. Mm-hmm. Mais bon, on garde ça à l'esprit.
Donc oui, c'est important de venir en prévention et on sait très bien que chaque choc, on a le formidable pouvoir de somatiser et de l'inscrire dans le corps pour que ça soit moins douloureux dans la tête. Hein.
Tout à fait. Mais ce qu'il y a aussi de fabuleux quand même avec la belle machine humaine, c'est qu'on a aussi toutes les ressources à l'intérieur pour régler tous ces problèmes. Donc c'est vrai que c'est l'idée un peu toutes ces thérapies entre guillemets complémentaires, qui sont complémentaires d'ailleurs, c'est de ressourcer la personne au sens propre du terme et de lui redonner un petit peu ses capacités d'auto-guérison. Donc pour la médecine chinoise, ça va être par l'intermédiaire de la circulation de l'énergie. C'est la grille de lecture de la médecine chinoise. Mais ça peut être vu de plein de manières différentes. Mais c'est vrai que cette idée de relancer les ressources qui sont dans l'individu, c'est assez central. On soigne pas les personnes. On prend soin d'elles et on essaie de faire en sorte qu'elles retrouvent les capacités de s'auto-guérir. C'est assez important de cette conception-là.
Donc il y a un bilan qui est fait avec le pouls, avec un dialogue évidemment avec le patient. Et vous avez certainement aussi des gens qui viennent vous voir en disant « j'ai rien, je veux juste voir comment vous travaillez » et puis après vous découvrez les petits problèmes enfouis.
C'est ça, parce que c'est vrai que le corps ment mal, donc on se rend assez vite compte des tensions et des fois il y a des choses qui ressortent pas pendant le bilan et qui apparaissent après parce que c'est vrai que quand on est en train de se faire masser, c'est propice aussi à lâcher, on se détend, on lâche un peu, le mental s'apaise un peu. Et puis là, on reprend conscience des événements qu'on peut être traumatisants, ou que ce soit des traumatismes physiques ou des traumatismes émotionnels ou tout type de traumatisme.
Donc c'est aussi un apaisement mental, puisqu'on sait bien que le cerveau ne s'arrête jamais ou alors après c'est trop tard, c'est mauvais signe. Donc ça apporte aussi une détente psychique.
Ouais, ça apporte une détente psychique, d'autant plus qu'il y a pas mal de techniques aussi viscérales. Et donc
c'est important aussi de travailler les viscères.
Et il y a aussi le travail au niveau du crâne. Et donc ça, c'est vrai que les personnes qui sont un peu tendues, un peu stressées, dès qu'on commence à travailler au niveau du ventre, au niveau du crâne, là ça a tendance à bien lâcher. Et puis moi, j'utilise aussi d'autres techniques un peu plus douces, qui sont pas liées au massage chinois, mais qui sont un peu des techniques de relaxation accompagnées. Donc au niveau du crâne, avec des manipulations beaucoup plus douces, même pas de manipulation du tout d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez efficace pour tout ce qui est tension et état de stress permanent.
Vous intervenez aussi pour des choses chroniques.
Oui.
Est-ce qu'il y a des résultats là-dessus?
Oui, c'est assez efficace pour tout ce qui est chronique, en particulier les douleurs chroniques, le mal de dos, mal du siècle, on connaît tous ça. C'est vrai que c'est des pratiques qui sont assez efficaces. Alors après, la contrepartie qu'il peut y avoir, c'est qu'on a parfois des gens qui viennent et qui ont des douleurs depuis des années. Alors soit qu'ils les ont laissés traîner, soit qu'ils ont déjà tenté tout ce qui est possible, imaginable, de la médecine allopathique à toutes les thérapies complémentaires possibles. Ils viennent en cabinet et il faut essayer de faire au mieux pour apporter le plus grand soulagement possible. Mais c'est toujours un petit défi quand même qui est intéressant et qui incite à toujours progresser, à toujours se former parce qu'on est toujours confronté à des cas pour lesquels on n'a pas vraiment de réponse. C'est comme ça, il faut l'accepter, c'est ce qui fait progresser aussi.
Donc vous êtes toujours en formation. Quand on rentre, on met un pied dans ce domaine, on n'en finit jamais.
C'est infini complètement, ouais. C'est infini. Et puis, oui, de toute façon, l'humain est infini, que ce soit au niveau corporel, au niveau psychique. C'est vrai qu'on n'a jamais fini d'explorer. La variété de la médecine chinoise aussi, c'est très complet, donc... Si à un moment je sens que j'ai besoin de sortir un petit peu du massage pour aller plus vers l'acupuncture, ça m'est ouvert. Et pour l'instant, je ne fais pas de pharmacopée, mais rien ne me dit que dans quelques années, je n'aurai pas envie de m'orienter vers là. Donc l'important, c'est de garder toujours le plaisir de pratiquer. Ça apporte beaucoup aux gens aussi.
C'est très intéressant pour la prévention. Ça peut aussi soigner après certains symptômes. Ou... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est important aussi. Les changements de saison, par exemple, serait recommandé d'avoir une séance à chaque changement de saison pour tout le monde.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que les Chinois considèrent 4 saisons comme nous. Et ils ont en plus une phase d'intersaison qui dure 18 jours. Donc en fin de chaque saison, et c'est vrai que c'est une phase un petit peu d'adaptation du corps, hein. C'est la saison de la Terre, ils vont appeler la Terre, c'est le centre, c'est le moment où les énergies vont basculer pour quitter la saison qui était en cours et pour rentrer dans la suivante. C'est des moments où on peut être un peu plus sensible, c'est des moments qui sont aussi propices pour essayer justement d'enclencher des dynamiques nouvelles. Donc c'est vrai que ce qu'ils appellent les intersaisons, ce sont des moments qui sont propices pour des gens qui viennent, qui veulent avoir un suivi régulier, qui sont globalement en forme, mais qui ont quand même conscience que la santé, c'est quelque chose qui s'entretient par une pratique quotidienne, activité physique ou gestion des émotions, mais aussi par l'accès à des soins. On a des personnes qui peuvent venir 4 fois par an, qui ciblent les intersaisons de manière à venir à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut venir vous voir aussi une personne qui a été opérée?
Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est toujours pareil, dans le bilan, on passe forcément un moment sur les différentes interventions qu'il y a pu y avoir. Donc après, si l'opération nécessite de faire attention à certaines zones particulières, ben évidemment, on va faire attention, on va adapter. De toute façon, c'est un soin qui est personnalisé, donc ça va être adapté systématiquement à des personnes qui auraient des opérations. J'ai dit des personnes avec des prothèses de hanche, bon bah forcément on va pas intervenir de la même manière que sur une personne qui a pas le moindre souci ou une personne qui s'est fait opérer d'une hernie discale, ça va être un petit peu différent aussi. Enfin, voilà,
Alors moi je pensais à des opérations lourdes comme quelqu'un qui s'est fait opérer à cœur ouvert ou des choses comme ça. Je sais que j'avais parlé de ça à une personne qui était épuisée après l'opération. Et j'ai eu des personnes qui ont réagi en disant oh là, surtout pas, c'est trop fort, pas maintenant, il faut d'abord du repos.
Alors, la personne ne va pas forcément venir le lendemain de son opération faire un soin, mais je pense que le fait qu'on puisse adapter l'intensité du soin à la personne fait qu'on peut vraiment faire des choses très douces aussi pour des personnes qui en ont besoin. Et c'est des personnes qui en ont besoin, si tout le monde leur dit « Non, moi, je peux pas vous toucher, moi, je peux pas, parce que c'est trop frais, c'est trop risqué. » C'est des personnes qui se retrouvent un peu en détresse, alors qu'il y a des choses qui sont douces, qui peuvent être faisables en ciblant bien son bilan et en ayant conscience de ses propres limites, en restant à l'écoute de la personne, on peut intervenir de manière douce sur des personnes qui ont subi même récemment des interventions qui peuvent être lourdes.
Et encore une question par rapport aux soins que vous pouvez faire. Quelqu'un qui a eu une chimiothérapie,
oui.
Ça peut être bien aussi de...
Oui, tout à fait, oui. Alors là, ça sera pas spécifique au massage Twina. Hein. Il y a pas mal d'études qui sont faites sur le massage en général. Hein, et comme soin de support, on va appeler ça dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'est pas des soins qui vont traiter le cancer, mais par contre c'est des soins qui vont aider le corps à accepter les traitements qui sont des traitements très lourds. Et il y a des on va dire des points, mais c'est un peu réducteur de parler juste de points, mais il y a des points d'acupuncture qui peuvent avoir un effet sur le renforcement du système immunitaire, sur la fatigue générale du corps, en particulier dans des cas d'intervention lourde comme ça. Et oui, bien sûr, oui. Pareil, on adapte en fonction de la forme de la personne au moment où elle vient. On va peut-être pas proposer, on proposera pas un soin qui va être trop tonique sur une personne qui est déjà fatiguée. On va adapter.
Est-ce qu'il y a des contre-indications ?
Non, il n'y a pas de contre-indications, mais si vous faites une fracture ou traumatisme corporel, vous n'allez pas venir vous faire masser alors que vous venez vous faire une fracture ou juste après une entorse ou une grosse intervention, ça reste du massage. Donc il y a des contre-indications par rapport au caractère aigu de certains troubles, certains traumatismes. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Dans la mesure où on adapte le soin à la personne, non, il n'y a pas vraiment de contre-indications.
Et alors par rapport à la loi, vous me disiez tout à l'heure, avant les massages, bien sûr, c'était sous couvert d'un kiné, c'était sous ordonnance médicale. Maintenant, la loi a évolué par rapport à ça ?
Oui, normalement, en 2015, le terme massage a été un petit peu élargi. Alors après, c'est vrai que pendant longtemps, donc cette utilisation du massage a été un peu la chasse gardée, on va dire, du domaine de la santé, donc les kinés ou les médecins ou les ostéopathes massent peu, en fait. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement en France on est les seuls à fonctionner comme ça, hein. Si on regarde un petit peu partout en Europe, le massage utilisé, et si on regarde ailleurs dans le monde, c'est un art thérapeutique courant depuis des générations, depuis des centaines d'années, des millénaires, dans les familles, donc nous on l'a perdu un petit peu, on y revient, c'est tant mieux.
Olivier Durier, merci.
Ça
va être l'heure de nous quitter. Est-ce qu'on a oublié de mentionner quelque chose de très important avant de donner vos coordonnées ?
Non, je pense
qu'on a fait une
première approche assez globale.
Voilà. Donc, vous êtes praticien de massage Twina,
oui,
c'est ça.
Tout à fait.
Vous êtes installé à Marcus.
Oui, c'est ça.
Et les gens qui voudraient prendre rendez-vous avec vous, comment ils font ?
Oui, alors j'ai un petit site internet, hein, en tapant massage chinois digne, on tombe normalement un peu assez vite sur mon site. Et oui, sinon, voilà, donc il y a mes coordonnées sur le site. Donc tout est accessible par là.
Merci. Et puis,
c'est moi qui vous remercie.
Bonne fin d'année. Et puis on aura peut-être l'occasion de se revoir pour reparler de ces soins sans fin.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Bonne
Merci
journée.
Au revoir.
Et puis cette émission sera en ligne sur notre site fréquencemistral.com dans émission. Merci Olivier Durier. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.